L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local, en compagnie, comme tous les jours désormais, de Claire. Bonjour Claire.
Eh oui, bonjour tout le monde, toujours à Laval.
Exactement, j'allais repréciser justement, donc tu es toujours dans nos studios à Laval et ici à Château-Gontier, deux studios pour une émission fantastique évidemment. On continue même en temps de confinement de vous informer et aujourd'hui on va parler des infirmières à domicile qui se mobilisent. Oubliées du Ségur, elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas le droit à la prime mensuelle de 183 euros. Elles rappellent leur mission essentielle. À l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, lumière sur un projet qui mêle recyclage et insertion professionnelle. On parle d'alternatrie à Saint-Berthevin. Et puis on poursuit notre tour des commerçants de Château-Gontier qui s'adaptent au confinement ou au reconfinement avec le restaurant 2M qui s'implique encore plus dans la vente à emporter.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, une aide exceptionnelle de solidarité accordée aux jeunes et aux foyers les plus modestes.
Nouveau geste du gouvernement pour ce deuxième reconfinement. Les jeunes de moins de 25 ans qui perçoivent l'APL ainsi que les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et du revenu de solidarité toucheront 150 euros d'aide plus 100 euros par enfant à charge et ce à partir du 27 novembre prochain. Plus d'infos auprès de la Caisse d'allocation familiale de la Mayenne.
Légère amélioration de l'épidémie dans la région.
Les derniers chiffres délivrés par l'Agence régionale de santé donnent un peu d'espoir. En Mayenne, le taux d'incidence s'établit à 247,2 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité, lui, est à 15,7%. Au centre hospitalier de Laval, la situation se stabilise légèrement depuis quelques jours, mais les médecins restent très prudents. 41 lits de médecine conventionnelle sont désormais réservés aux patients Covid et 18 lits de réanimation ont été créés. Parmi eux, 14 étaient occupés hier après-midi, dont 12 pour la Covid. Deux tiers des opérations en chirurgie ont été déprogrammées, pas toutes donc, restent notamment la cancérologie et les endoscopies. Et même si l'hôpital de Laval a une capacité de 25 lits en réanimation, tout est fait pour éviter cette situation. Explication du docteur Yacine, le chef du service réanimation, et d'André Gwenaël-Porse, le directeur de l'hôpital.
Si on passe à 25 lits, il faudrait à peu près une douzaine d'infirmiers et une dizaine d'aides-soignantes.
Et pratiquement, pour faire ça, il faut que tous les hôpitaux et la clinique arrêtent l'activité programmée pour pouvoir redéployer ce personnel. Donc on se retrouvait dans une situation identique, on va dire, au mois de mars.
En mars, le problème ne s'est pas posé parce que la déprogrammation s'est faite très rapidement. Donc ce qui a mobilisé très rapidement des ressources humaines. Et nous avons pu monter nos lits de réanimation de 10 lits à 25 lits en moins de 2 semaines. Pour l'instant, nous gardons, y compris les autres centres hospitaliers et la polyclinique, une activité programmée encore.
C'est seulement à partir du mois d'octobre que l'on a récupéré le retard de prise en charge de mois de mars-avril. Vous voyez, donc on a eu 6 mois de décalage pour récupérer les patients qui avaient été déprogrammés. Et ça avait des conséquences évidemment dramatiques, y compris pour certains patients donc, où il y a eu des pertes de chance donc, et des retards dans les prises en charge.
Pour autant, difficile de transférer aujourd'hui les patients vers les autres hôpitaux mayennais déjà occupés. 31 patients sont accueillis à Château-Gontier et 39 au centre hospitalier de Mayenne. Reste la problématique du personnel à Laval, avec un taux d'absentéisme qui frôle les 9% contre 6 habituellement, sans parler de la difficulté de trouver des soignants qualifiés en réanimation.
Non à la réforme de l'enseignement supérieur.
Des étudiants à la fac de droit de Laval se mobilisent contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, discutée depuis hier à l'Assemblée nationale. Ils ont lancé une pétition en ligne qui a recueilli plus de 2000 signatures. Leur crainte, une restriction des budgets et des recrutements de moins bonne qualité. Les étudiants ont aussi contacté les 3 députés mayennais et parmi eux, Guillaume Garot a déjà affiché son opposition au texte.
Le département remet la main au porte-monnaie pour l'espace Mayenne.
Plus 1,2 million d'euros, c'est le montant de la rallonge accordée par les conseillers départementaux pour la construction de l'équipement sportif et culturel à l'espace Mayenne. Un supplément dû à la crise sanitaire avec l'achat de bungalows supplémentaires pour respecter les mesures sanitaires entre les ouvriers, mais aussi à la mise en lumière de l'extérieur du bâtiment et la signalétique à l'intérieur des salles. Le chantier devrait être terminé en mars prochain.
La subvention régionale pour Lactalis, très disputée.
Le groupe laitier défend, je cite, « un investissement majeur et innovant pour la création d'un nouvel atelier de production de poudre de lait à Mayenne, pour justifier la subvention de 840 000 euros votée par la région. Une décision qui a fait bondir les groupes politiques de gauche, qui évoquent une subvention injustifiée pour un groupe prospère et qui plus est aux pratiques contestées selon eux.
Le mois de novembre remboursé pour les abonnés du réseau Aléop de la région.
Et plus précisément, les abonnés non scolaires au service de transport par car et qui n'ont pas utilisé donc le service en novembre. En Mayenne, la demande de remboursement se fait sur le formulaire en ligne aleop.paysdelaloire.fr. Deux possibilités, un remboursement ou une suspension de prélèvement sur décembre. Attention, les demandes sont à faire avant le 25 novembre.
Sur le Vendée Globe, pas de piège avec le poteau noir pour l'instant.
Cette zone de convergence des vents située sur l'équateur, réputée pourtant difficile à passer pour les navigateurs, n'a pas gêné Alex Thompson en tête de course. Sur son bateau VNB Mayenne, Maxime Sorel occupe la 14e place au dernier pointage à midi. Et toujours avant-dernier, Fabrice Amedeo lui rattrape son retard. Il n'est plus qu'à 200 000 nautiques de ses concurrents.
Indispensable pour le maintien à domicile des patients et pourtant oublié du Ségur.
C'est ce que dénonce le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile du centre hospitalier du Haut-Anjou. Ils étaient une trentaine hier après-midi à manifester devant l'hôpital de Château-Gontier, répondant à l'appel de la CGT. En ligne de mire, leur exclusion du Ségur de la santé et donc de la prime de 183 euros par mois accordée à chaque soignant. Une décision incompréhensible pour Laura Menu et Myriam Bouguier, toutes les deux aides-soignantes au SIAD depuis plus de 10 ans.
Tout le secteur de l'hôpital derrière vous touche les 183 euros de revalorisation du Ségur, sauf nous. Vous avez vu mon slogan, on a tous le même diplôme mais pas le même salaire. Donc nous on veut le même salaire.
En tant qu'aide-soignante à domicile, c'est pour que les gens restent le plus longtemps possible chez eux. Donc on fait des soins de confort, d'hygiène, de tout quoi, pour qu'ils restent le plus longtemps possible, pour éviter l'augmentation dans les EHPAD. Les gens nous disent oui, gardez le domicile pour que les gens restent chez eux, pour qu'ils soient bien chez eux. Et bien de fait, nous on est là pour qu'ils restent chez eux. On vient tout le temps sur prescription médicale. Le métier, notre service, oui, on adore, on est près des gens, on les coucoune peut-être un petit peu trop, mais c'est plus fort que nous, on veut qu'ils soient bien, c'est le bien-être des gens, on veut le bien-être des gens. C'est nous qui allons chez eux, donc s'ils n'ont pas envie des fois de faire un soin ou autre, parce que ils n'ont pas envie ce jour-là, parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont en perte de forme et tout ça, ça sera pour demain et puis tout ça. Je suis bien chez les gens, quoi. Au moins, on les trouve différents. C'est différent quand ils sont chez eux que quand ils sont en service, quoi.
Des patients reconnaissants du travail des aides-soignantes, elles sont 15 dans le service qui couvre toute la communauté de communes, accompagnée d'un ergothérapeute, un cadre de santé, une secrétaire et une infirmière coordinatrice, Christine Chauvel.
Mes collègues aides-soignantes ou moi, on peut très bien demander à aller travailler sur l'hôpital où on aura du coup, on bénéficiera des 183 euros par mois. Mais du coup, si elles partent et si moi je pars, qui va vouloir revenir travailler ici? Et le risque, c'est de devoir fermer le service parce qu'on n'aura plus personne qui voudra travailler. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir les gens? Ce qu'on n'imagine pas, c'est les gens qui restent à domicile. On a des gens qui sont grabataires, qui font lit fauteuil. On a des gens qui font un lève-personne pour les lever. Sans nous, il y a des gens qui resteraient dans leur lit toute la journée. Il y a des personnes qui sont incontinentes, ils ne seraient pas changés, ils n'auraient pas de toilette, ils ne seraient pas habillés. Et donc si ça s'arrête, ces gens-là, ils vont devenir quoi? Ils vont aller en EHPAD alors que leur souhait, c'est de rester à domicile? Et puis, nous, on a encore la chance de pouvoir prendre notre temps. S'il faut qu'on soit là 20 minutes, on est là 20 minutes, mais s'il faut qu'on soit là une heure, on va être là une heure. Et puis, on est aussi un soutien pour les aidants.
Au niveau de l'alimentation ou de l'installation de matériel, par exemple, une pétition a été lancée sur change.org, intitulée « SIAD Château-Gontier, les oubliés des accords du Ségur ». Elle a déjà récolté plus de 200 signatures. Récolter les papiers et cartons du bureau tout en permettant à des personnes de retrouver le chemin de l'emploi, ce sont les missions d'Alternatrie présentées par son directeur Jean-Louis Fournier d'ici quelques minutes, après avoir écouté Fade Out Lines de The Avener. We'll be right back.
it's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind.
Sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. À l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, en novembre, de nombreuses webconférences sont organisées par l'APES 53, l'association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en Mayenne. Prochaine conférence virtuelle ce vendredi, elle sera dédiée à l'économie circulaire. Sont invités Emmaüs, le collectif R, Ecoptimum, mais aussi Alternatrie, une structure basée à Saint-Berthevin, engagée dans la réinsertion professionnelle et le recyclage de papier et carton. Jean-Louis Fournier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur d'Alternatrie, qui est basée ici en Mayenne. En tout cas, l'aventure a commencé ici en Mayenne. Est-ce qu'on peut revenir justement sur la création de la structure en 2008 ?
Alors en effet, Alternatrie a démarré ses activités en 2008, alors en avril 2008, par la volonté des institutionnels du département de la Mayenne, à savoir les services de l'État en Mayenne, le conseil départemental et Laval Agglomération. Ces trois acteurs publics-là voulaient à cette époque créer une structure d'insertion par l'activité économique, avec une activité support dans le domaine de la collecte et du recyclage des déchets de bureau, en particulier le papier de bureau.
Et donc, du coup, l'idée, ça a été très vite de se tourner vers les entreprises du territoire pour aller justement récupérer ces papiers de bureau, ces cartons de qui ne servaient plus.
C'est absolument ça. La collecte du papier de bureau et du carton, de manière à renvoyer, alors à trier et à reconditionner ces matériaux sous différentes formes pour les faire réutiliser par des industriels qui ont besoin de ce genre de matières premières, donc de déchets triés pour devenir une matière première et réinjecter dans les circuits de fabrication de produits. C'est par exemple du papier de photocopieur, des ramettes à 4, à 3, etc., quelle qu'en soit la couleur. C'est aussi de l'essuie-main, de l'emballage agroalimentaire, enfin, ce genre d'application à partir de produits issus du tri. Alors, notre orientation est essentiellement, exclusivement orientée vers les professionnels, puisque le papier de bureau que nous collectons, ainsi que le carton, est issu uniquement des consommations des professionnels, que ce soit les administrations ou que ce soit les entreprises privées du secteur lavallois et mayennais au sens plus large.
Et donc, si on prend un petit peu le circuit de votre activité, comment ça se passe? Ce sont les entreprises justement qui vous contactent, alors je ne sais pas à quelle fréquence, peut-être une fois par mois, pour que vous passiez récupérer leurs déchets?
Oui, notre fonctionnement technique part sur la base d'un contrat, alors contrat annuel ou pluriannuel, peu importe, avec la définition d'une fréquence de passage. Souvent, c'est mensuel, en effet, mais ça peut être plus fréquent, notamment dans les administrations publiques qui sont plus consommatrices et émettrices de déchets papier, de déchets de bureau au sens plus large. Dans certaines administrations, donc, on passe plusieurs fois par mois en fonction de ce qui a été défini au contrat. Mais la moyenne, c'est en effet mensuel, avec des variations d'activité. Évidemment, la période estivale est moins propice, mais en tout cas, un lissage des contrats de collecte par année, et donc avec une fréquence mensuelle.
Et donc, une fois que tout ce papier, ce carton, toute cette matière est récupérée, qu'est-ce que vous en faites concrètement ?
Toutes ces matières sont ramenées ici sur notre site de Saint-Berthevin, à côté de Laval, dans un atelier de tri et de conditionnement. Nos opérateurs, qui sont tous des personnes en parcours d'insertion professionnelle ou en parcours de retour à l'emploi, occupent différents postes, des postes d'agent de tri, des postes de cariste. On est sur un bâtiment aujourd'hui qui fait 3 500 m², dans lequel on retrouve différents secteurs de travail, donc le tri, le conditionnement, la destruction pour tout ce qui concerne les documents confidentiels. Donc chaque zone de travail a un certain nombre d'opérateurs en insertion qui opèrent donc dans la première partie qui opère le tri. Le tri des matières en fonction de leur catégorie. Si on prend l'exemple du papier, ce n'est pas le papier au sens large du terme, mais ce sont plutôt les papiers, puisqu'on a on est face à différentes catégories, différentes qualités qui doivent être regroupées par typologie et donc reconditionnées pour pouvoir être utilisées par les industriels vers lesquels on expédie ces matières. Donc on trie le papier de bureau de manière à ressortir des qualités différentes. Un papier journal est loin d'être aussi qualitatif qu'un papier issu de photocopieur ou d'imprimante de type ramette A4. Nos agents sont formés à reconnaître les différentes typologies de matières en papier, en carton, en plastique, de manière à les trier en fonction de la nature pour qu'ils soient reconditionnés et expédiés vers les bonnes filières.
Et donc l'idée après, c'est d'en refaire aussi du papier ou même d'autres objets, d'autres utilisations ?
Au fil des années, on a affiné les partenariats industriels dans un environnement relativement proche. On travaille essentiellement en Bretagne et Pays de la Loire, Normandie aussi. On évite d'exporter nos matières triées, conditionnées. On ne les exporte pas à l'étranger. On veut vraiment être sur une économie la plus circulaire possible, avec une réutilisation ou un réemploi selon les types de matières, sur un territoire le plus proche du nôtre. Les différents industriels avec lesquels nous travaillons ont évolué aussi, eux, de leur côté. On a noué de nouveaux partenariats. Aujourd'hui, sur la catégorie la plus forte, on est sur la catégorie de papier la plus élevée, la plus qualitative. On travaille avec un industriel normand dans la Manche qui fabrique des essuie-mains, du papier de type serviette, de table, etc. Donc dans une qualité le plus possible sans traitement chimique, avec un réseau de distribution qui peut être par exemple celui des Biocop notamment. Pour d'autres catégories, on travaille avec un industriel breton qui fabrique de l'emballage agroalimentaire et surtout des boîtes à œufs. Donc chacun sait quelle consistance a une boîte à œufs, donc c'est une pâte bien spécifique. Et cet industriel-là est spécialisé, est l'un des leaders européens dans la fabrication d'emballage pour les œufs ou le milieu médical aussi, ça ressemble un petit peu comme produit de calage. Donc ça c'est pour la partie papier, puis pour la partie carton, on travaille désormais avec une entreprise nantaise qui fabrique de l'emballage agroalimentaire.
Et j'imagine qu'au fil des ans, la matière que vous avez récoltée a augmenté, enfin la quantité, en tout cas les quantités ont augmenté. Ça représente quoi en une dizaine d'années ?
Alors on a démarré en 2008 avec zéro, avec rien, puisque c'était le démarrage. Donc à l'issue de la première année, on devait être à peu près à une petite centaine de tonnes de papier, un petit peu moins de 100 tonnes de papier et moins de 100 tonnes aussi pour le carton. Aujourd'hui, 12 ans après, on est sur une volumétrie en papier de bureau et papier d'hiver. On s'est élargi aux journaux, aux magazines, aux revues, aux livres. Nous traitons pratiquement 1000 tonnes par an pour la partie papier et un peu plus de 3000 tonnes de carton par an aussi, donc qui passent par les mains de nos opérateurs et par nos machines. Donc ça fait déjà des beaux volumes, plus de 3000 tonnes, pratiquement 4000 tonnes au total, traitées par an. On a étendu aussi notre champ d'investigation à tout ce qui est autre déchets de bureau. On peut citer des gobelets café, on peut citer les cartouches d'encre, des mobiliers de bureau, tout ce qui est encombrant. Tout ça, ça fait partie des tonnages qui sont collectés, triés, traités, valorisés.
Donc, de plus en plus, il y a toute cette dimension écologique forcément dans votre activité. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, vous n'employez pas n'importe qui, entre guillemets. C'est vraiment des personnes qui sont, en tout cas quand elles arrivent dans votre structure, chez Alternatri, peut-être plus éloignées de l'emploi que d'autres personnes. Qui est-ce que vous employez ? Comment ces personnes-là sont sélectionnées, sont embauchées ?
Vous avez raison, quand vous abordez ce sujet-là, j'aime à dire qu'on avance sur deux jambes. On parle souvent de la jambe environnementale, recyclage, collecte des déchets pour qu'ils ne soient pas envoyés n'importe où. Ça, c'est une jambe certes importante, mais je dirais que notre première jambe, c'est celle de l'emploi, c'est celle de la mise au travail des personnes qui sont en recherche d'emploi. Notre conventionnement avec l'État, avec le département, avec l'agglomération lavalloise, prévoit et nous finance pour cette activité d'accompagnement social et professionnel. C'est une activité à part entière. Une entreprise classique se soucierait peu, même en ayant les mêmes activités que les nôtres, se soucierait peu de cet environnement social et plus humain. C'est vraiment notre rôle. Alors 100% en effet des opérateurs chez nous sont des personnes qui arrivent sans emploi, donc qui sont inscrites à Pôle emploi ou qui sont bénéficiaires du RSA, quel que soit leur âge, hein, qu'elles aient 18 ans ou qu'elles aient 55 ou 60 ans, on accueille sur une durée déterminée d'environ un an, maximum deux ans. On accueille ce public en recherche d'emploi, orienté par des prescripteurs comme Pôle emploi, comme les travailleurs sociaux du conseil départemental, entre autres. Et ces personnes arrivent chez nous et changent de catégorie puisqu'elles sont salariées de notre structure, donc elles perçoivent un salaire. Et on adapte leur parcours de retour à l'emploi en fonction de leur capacité à se réapproprier le travail et à lever les freins. Qui peuvent être des freins sociaux, mais aussi des freins économiques, des freins de mobilité. Tous ces freins-là font autant d'obstacles au fait de retrouver un emploi dans le milieu classique, je dirais. Donc, on se situe, nous, comme une sorte de passerelle entre leur état de demandeur d'emploi ou de chercheur d'emploi et un futur emploi pérenne dans une entreprise du secteur. Alors, pas forcément dans le domaine des déchets, hein, quel que soit le domaine d'activité, peu importe. Ce qui compte, c'est l'optimisme et la volonté de la personne à se remettre dans le circuit de l'emploi. Et on est là pour ça, on est là pour les accompagner. Donc, j'ai des collaborateurs permanents pour qui c'est le travail de les accompagner au quotidien. Donc, j'ai 4 personnes qui travaillent sur ce sujet de l'accompagnement social et professionnel. Et on reçoit pour alternatrie une quarantaine de personnes par an qui évoluent, qui s'inscrivent dans un schéma de retour à l'emploi avec la levée des freins, donc un accompagnement individuel au quotidien ou collectif, et puis des séquences de formation aussi qui ne sont pas forcément que des formations au poste chez nous, au poste qu'elles occupent ces personnes chez nous, mais bien à des savoirs de base ou des savoir-faire de base. On peut parler du français, des maths, mais aussi de compétences sociales, savoir intégrer des consignes de travail, savoir se comporter. Tout ça, ce sont des compétences transversales qu'on retrouve quelle que soit la nature de l'activité future, la nature de l'entreprise future dans laquelle ils arriveront après nous. Voilà notre objectif, notre travail d'accompagnateur socio-professionnel.
La mobilité, ça fait partie des principaux freins ici en Mayenne ?
C'est pour notre public, donc au moins pour les personnes que nous avons chez nous, c'est le principal frein à l'emploi, c'est la mobilité. On est sur un public, de manière générale, qui est peu ou pas qualifié. Donc, qui accède à des emplois futurs plutôt de production dans l'industrie, dans le bâtiment, même si le bâtiment recherche plutôt des ouvriers qualifiés, mais sur des postes de manœuvre notamment. On est chez nous sur un public qui s'achemine vers ces emplois-là, dans le domaine du transport aussi, de la livraison. Et forcément, quand on parle du milieu industriel ou du domaine du bâtiment, il faut être mobile. Soit parce que les horaires de travail ne correspondent pas avec les horaires de transport en commun, ou bien il n'y a pas de transport en commun entre le domicile de la personne et son futur lieu de travail, et bien il faut essayer de remédier, autant que faire se peut, à cette absence de moyens de locomotion. Ça peut être le permis, mais ça peut être aussi la location d'une voiture, le temps de se refaire financièrement et de pouvoir acquérir un véhicule. Ça peut être le cas pour un deux-roues, ça peut être le cas pour pas mal de solutions qui, sur le champ de la mobilité, vont contribuer à se rapprocher de l'emploi plus facilement. On a parlé du frein de la mobilité, mais ça peut être aussi d'autres freins. Je pense à un public plutôt féminin ou monoparental qui pourrait avoir une forme de complexité pour la garde des enfants, surtout les enfants en bas âge. Donc tout ça peut être un cumul de freins. Et il nous faut, avec ces personnes, pas à leur place, mais bien avec elles, trouver les meilleures solutions pour que l'objectif emploi soit atteint ou l'objectif entrée en formation qualifiante soit atteint. Et ça peut prendre plus ou moins de temps.
Il n'y a pas vraiment de profil type, du coup, dans les personnes que vous accompagnez ?
Non, le profil type, je dirais que c'est surtout, ils forment surtout un profil peu ou pas qualifié. C'est surtout ça le dénominateur commun. On a aussi un public migrant qui, aujourd'hui, est en nombre assez conséquent. Le nombre de nos public non francophone a augmenté ces deux dernières années. Et là, on est aussi sur des freins, en dehors des freins classiques de la mobilité ou de la qualification. On peut être aussi sur des freins de moins bonne appropriation de la langue française. Et là, le premier frein à lever, c'est celui-là. C'est celui de la communication, d'acquérir des connaissances, des compétences en termes de langue et de pouvoir se débrouiller ensuite par eux-mêmes dans leur démarche administrative, dans leur démarche de recherche d'emploi ou de maintien dans l'emploi. Ça, c'est très important et ce sont des parcours, des profils qui sont en quantité nettement plus nombreuses. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50% de nos salariés en parcours d'insertion à ce jour qui sont issus de pays non francophones. Donc, c'est un chiffre assez impressionnant qu'on ne connaissait pas il y a quelques années.
Merci beaucoup, Jean-Louis Fournier, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Et plus d'infos à retrouver lors de la webconférence organisée ce vendredi de 9h30 à 11h. Conférence accessible sur le site de l'APES 53. Sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Avec une nouvelle chronique aujourd'hui proposée par Agnès, une bénévole, donc qui nous propose une chronique pour découvrir les associations du territoire, les associations que vous connaissez autour de vous en Mayenne. Et on commence avec Place au vélo.
Bonjour à tous. Alors on vous met au défi de rencontrer notre invité Philippe Mottier en voiture dans Laval, et pour cause, il s'agit du président de l'association Place au vélo depuis de nombreuses années. Il est toujours à vélo. Et pourquoi, Philippe, vous êtes toujours à vélo?
Parce que c'est tellement pratique. La première réponse qui me vient, c'est écologique, pratique, économique, bon pour la santé, convivial, on peut s'arrêter à tout moment, et c'est le côté pratique, je pense.
D'accord. Et c'est pour ça que du coup, vous vouliez qu'il y ait de plus en plus de gens à vélo et que vous vous investissez dans l'association Place au vélo.
Oui, il me semble important de donner le choix aux gens du mode de déplacement. Et on voit bien que pour certains, c'est difficile d'envisager de prendre le vélo à cause d'un sentiment excessif parfois d'insécurité sur la chaussée.
Donc Place au vélo existe depuis combien de temps ?
Depuis déjà longtemps, puisque c'est né en 1994.
Et vous avez de nombreux adhérents, le nombre évolue avec les années ?
Oui, on a fait un bond en 2019 important, qui est parallèlement au nombre de pratiquants qu'on peut constater dans les rues de Laval. On est maintenant à peu près 170 adhésions, qui représentent, on n'est pas loin de 300 personnes actuellement.
En quelques points, quelles sont vos actions fortes?
Alors, les actions fortes régulières, c'est les ateliers vélos participatifs où on vient pour apprendre à gagner en autonomie pour la réparation des vélos. Les balades vélos ont été suspendues, mais peut-être qu'on va y réfléchir pour savoir si on peut refaire des balades vélos ouvertes à tout le monde. Et puis, la bourse vélo annuelle, donc, qui aura lieu certainement l'année prochaine, au début avril, mais dont la date n'est pas fixée. Ensuite, on travaille avec la vélo-école qui est en train de se développer avec quelques bénévoles pour former des adultes qui n'ont jamais eu l'occasion ou la possibilité d'apprendre à faire du vélo et qui veulent là aussi être autonomes à vélo dans leur déplacement. Bon, ce sont nos principales actions.
Du coup, Place au vélo agit pour justement des aménagements pour les cyclistes ?
Oui, on propose régulièrement aux élus des propositions d'aménagement et on est aussi maintenant reconnu et consulté pour certains types d'aménagements où on peut donner notre avis en tant qu'association d'usagers sur l'efficacité des aménagements proposés.
Alors justement, est-ce qu'il y a eu des aménagements pour les cyclistes, pour la pratique du vélo qui ont été réalisés grâce à Place au Vélo?
On suit régulièrement l'actualité réglementaire et législative en faveur du vélo. C'est ainsi qu'on a pu proposer aux différentes municipalités les doubles sens cyclables. Il y en a quand même pas mal à Laval maintenant. Les laisser passer au feu, ces fameux panneaux triangulaires qui facilitent les tournes à droite au feu rouge pour les cyclistes sans avoir la priorité. Les espaces vélo au feu pour pouvoir tourner plus facilement à gauche et se mettre devant les voitures à l'arrêt. Donc ce sont des choses que nous on a proposées, qui ont été acceptées plus ou moins facilement selon les élus en charge. On est allé par tranches successives, mais c'est clair que ça a facilité des itinéraires cyclables plus directs, plus tranquilles et plus agréables pour les cyclistes.
Et plus efficaces. Moi qui suis pratiquante, que je vais beaucoup plus.
Il y a aussi les parkings vélos. On a fait régulièrement des propositions de parking vélo pour pouvoir attacher en sécurité son vélo.
Très bien. Eh bien, vive le vélo. Merci beaucoup. Et à bientôt à vélo.
Merci.
Merci Agnès pour cette chronique qui est à réécouter, je vais y arriver, comme toutes ces émissions et tous les jours sur notre site l'autreradio.fr. Et vous, comment ça va? C'est un peu la question qu'on a envie de poser à tout le monde en ce moment et peut-être encore plus à ceux qui subissent de plein fouet cette crise sanitaire et économique. On pense forcément aux commerçants, aux bars, aux restaurants. À l'image du 2e à Château-Gontier, ils sont nombreux à avoir misé sur la vente à emporter. Franck Régnier, le co-gérant du restaurant 2e, accuse le coup.
On repart pour un deuxième tour, malheureusement. Donc c'est vrai que pour les fêtes de fin d'année, nous c'était décembre, c'était un gros mois. Donc voilà, donc c'est encore une conséquence pour nous et malheureusement du chiffre d'affaires en moins, des salariés au chômage partiel, donc c'est pas top. Donc nous on est 17 en tout à travailler ici au restaurant le 2e, donc ça fait 14 personnes au chômage partiel. Ce qui reste, c'est on est deux, moi et mon collègue Gabriel Germain. Et après, en cuisine, on essaie d'alterner avec deux personnes. Voilà, on fait la vente à emporter. Donc, dès le premier jour du confinement, en fait, du deuxième confinement. Donc, du lundi au vendredi, midi et soir, et le samedi soir, pour l'instant. Pendant le premier confinement, on l'avait fait à partir du 11 mai. Donc, on a été fermé pendant 2 mois quasiment. Et après, à partir du 11 mai, on a été ouvert vente à emporter du lundi au vendredi. Et sinon, toute l'année, on fait la vente à emporter avec nos salades, nos burgers et nos pizzas. Sauf que là, maintenant, on fait une formule du jour à 12,90€, entrée, plat, dessert. Et on a un menu réception aussi à 18€ avec foie gras, filet de bar et tarte tatin. Oui, ça fait déjà 2 semaines et demie. Donc la première semaine, au début de semaine, c'était un peu calme. Après le week-end, on travaille bien quand même, le vendredi et le samedi soir. Oui, la semaine dernière, on a commencé à quasiment doubler en début de semaine. Et le week-end, par contre, on fait des gros week-ends. Donc, c'est vrai que c'est un nouveau métier, c'est différent, il faut s'adapter. Et par contre, c'est pendant 2 heures au taquet. On commence à 17h30, donc pour préparer, commencer à mettre en place. Et de 19h à 21h, ça n'arrête pas le samedi soir. Il faut gérer donc, le téléphone, les commandes. La mise en place dans les sacs et le paiement, donc oui, c'est intense. Le mieux, c'est d'accueillir les gens et faire de la restauration dans la salle. C'est vrai que c'est quand même mieux, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, jusqu'à quand, on verra. Alors, on va dire à peu près 50 plats par jour. Sauf le week-end, on peut faire 100, 120 personnes par jour. Oui, oui, à nos clients, en fait, on a toujours fait de la vente à emporter, mais on n'a jamais fait trop de pub parce que c'est quand même un autre métier. Et nous, on se rend compte des fois quand on fait beaucoup de plats emportés le week-end, et ben, quand il y a du monde en salle, il faut alterner. Donc à un moment donné, il y a de l'attente. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais trop fait de pub sur ça. Après, c'est quelque chose qu'on peut développer. Donc à voir. Mais moi, j'avais toujours dit dès le début que ce serait peut-être mi-décembre. Mais après, si c'est pas ouvrir au mois de décembre et refermer en début février, est-ce que c'est raisonnable? Pour les fêtes de fin d'année, on va faire un menu, 2 menus à 33€ et 43€, beaucoup plus élaborés, pour que les gens en profitent aussi pour chez eux. Après, on n'a pas trop de vision pour l'instant. Donc, si c'est le 15 janvier, ce sera le 15 janvier, malheureusement. On subit, on n'a pas autre choix. Donc, c'est comme ça.
Fataliste, mais battant à la fois, puisque le restaurateur dit plancher sur de nouveaux projets pour son restaurant. Demain, nous donnerons la parole aux coprésidentes de l'association Castel Shopping, elle aussi est commerçante dans le centre-ville. C'est l'heure de notre rubrique autour des belles initiatives de notre département. On vous avait parlé de l'opération Miam, lancée par le conseil départemental de la Mayenne, mais aujourd'hui, Claire, c'est une autre initiative que le département propose.
Après le succès de cette opération Marie pour les restaurateurs, le conseil a choisi de lancer une nouvelle initiative pour les commerçants de proximité cette fois-ci, 5 euros de réduction pour 30 euros d'achat sur l'application Ma Ville Mon Shopping. Cette application regroupe tous vos commerçants de proximité sur une seule et même plateforme où vous pouvez effectuer tous vos achats, à retrouver donc sur maville-mon-shopping.fr.
À Sainte-Suzanne, les restaurants proposent un service à emporter.
Les restaurants de la ville se mobilisent pour les personnes qui continuent de travailler en semaine comme en week-end. Ainsi, on retrouve le restaurant La Cabane, qui est ouvert le samedi et le dimanche midi. Vous pouvez réserver vos plats au 02 43 69 73 59. On retrouve aussi l'hôtel-restaurant Beau Séjour, qui propose des plats à emporter le midi du lundi au vendredi, là aussi par réservation, au 02 43 01 40 31.
À Cran et Mayenne, deux initiatives pour aider les personnes les plus vulnérables.
À Cran, la municipalité met à disposition des personnes isolées une ligne directe. Un élu répondra à tous vos appels, 7 jours sur 7. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un, la ligne à contacter est le 06 30 25 35 68. À Mayenne, l'association Les Possibles est solidaire face à la crise sanitaire. 6 de ses salariés vont rejoindre l'EHPAD de la Providence. Ils y distribueront les repas, tiendront compagnie aux résidents, et ce jusqu'aux fêtes de Noël.
Et puis le Coxy Market de Changé veut vous faire rire grâce à son panneau d'affichage.
Et oui, sur les réseaux sociaux, Paul Manson, le gérant de la supérette, relaie chaque jour ce qu'il écrit sur son panneau. Toujours une formule amusante sur la politique ou l'actualité. Exemple, quel est le fromage de Brigitte, le président? Ou encore, pour les jours des élections américaines, les Américains se sont-ils trumpés? C'est personnellement ma préférée. De plus, le gérant propose la livraison à domicile. Elle se fera à Changé, Laval, Saint-Germain-le-Fouillou et Saint-Jean-sur-Mayenne. N'hésitez pas à passer commande au 02 43 49 26 98. Bref, si vous êtes à Changé, n'hésitez pas à passer à la supérette juste en face de l'église et surtout à rire un bon coup ou alors à suivre leur compte Facebook.
Oui, je crois qu'il y a tous les panneaux pris en photo chaque jour avec justement les phrases dont tu parlais, si on n'a pas la chance, on va dire, de passer devant le Coxy Market de Changé. Et puis, on parlait de compte Facebook. Je vais y arriver en articulant, c'est mieux. Le compte Facebook de l'autre radio, lui, est toujours actif. N'hésitez pas à nous suivre également sur Twitter. On vous annonce à chaque fois le programme des émissions. Et puis aussi à nous partager toujours vos initiatives sur notre répondeur. Au 09 70 40 59 40, 09 70 40 59 40. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui de la JT du local. Merci Claire.
Merci Marie, à demain.
À demain, bonne fin de journée à toi et puis aux auditeurs. Mais restez là puisque à suivre à 19h, il y aura Novorama. Et puis à 21h, Chaosphère, une émission chargée en métal français et breton ce soir, une belle promesse. Prochaine quotidienne, vous l'avez compris, demain à 12h15. Bonne fin de journée et à demain.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.